Les podcasts du Collège de France, biologie.
Bien, on va commencer. Bonjour. Bonne année à toutes et à tous, puisque c'est encore le moment de le faire. Ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui dans la suite en fait, des leçons précédentes qui vous avaient déjà introduit pas mal dans le domaine, disons ce qu'on peut appeler l'interaction moléculaire et cellulaire des microbes avec l'hôte, et en particulier l'hôte humain, c'est d'avancer encore d'une étape dans la compréhension de la survenue des maladies infectieuses et cette fois-ci de les regarder plus dans la perspective de pourquoi des maladies émergent, qui est la première question. La deuxième question, comment émerge-t-elle? Et je suis loin, là, moi-même et mes collègues, de pouvoir vous donner une réponse précise et détaillée, mais vous montrer un petit peu comment les travaux évoluent dans la compréhension de ces mécanismes d'émergence. Donc ce cours ou ce bloc, aujourd'hui, va se diviser en deux parties. Le premier cours ou leçon, donc je commence, va être sur l'émergence des maladies infectieuses et particulièrement centré sur ce qu'on peut considérer, disons, comme les bases moléculaires cellulaires, le programme moléculaire de passage de la barrière d'espèce. On reviendra là-dessus. Et la deuxième partie de cet enseignement sera donnée par mon collègue de l'Institut Pasteur, le docteur Antoine Gessin, que je vous présenterai ultérieurement, qui vous parlera de son travail, une partie de son travail qui porte sur... Finalement, j'appellerais ça, il me corrigera sans doute, la veille moléculaire à l'émergence des micro-organismes et en particulier une veille anticipatrice, c'est-à-dire d'essayer de repérer comment des virus qui passent d'espèce animale à l'homme et de voir si ces situations vont ou non créer des conditions d'émergence de nouvelles maladies infectieuses. Et je pensais que c'était un domaine... D'abord, c'est un domaine d'actualité, on n'en entend pas beaucoup parler dans les médias. On entend aussi beaucoup de choses relativement limites, entre guillemets, sur le plan scientifique. Je pense que c'était bien d'essayer de remettre un petit peu les choses en perspective. Donc, ma présentation sera vraiment d'essayer de vous amener à travers ces problématiques d'émergence, comment et pourquoi les micro-organismes émergent. Et comme vous le verrez, je vais surtout me centrer sur des maladies virales, parce qu'en fait, comme vous pourrez le comprendre au fur et à mesure de la progression, c'est vraiment parmi les virus qu'on voit et qu'on a les chances de voir le plus d'événements d'émergence. Alors ça, c'est quelqu'un pour qui j'ai infiniment de respect et à qui j'avais d'ailleurs dédié la leçon inaugurale de cette chaire, qui est Charles Nicolle, qui est sûrement l'homme qui a, je dirais, conceptualisé cette notion d'émergence et de réémergence de maladies infectieuses. Alors, il le disait et il l'écrivait avec les termes de l'époque. Il était d'ailleurs professeur au Collège de France. Il avait la chaire de médecine expérimentale. Et il a colligé l'ensemble de ses leçons dans le courant des années 30, avant son décès, je pense qu'il est décédé en 1938, dans un livre qui s'appelle « Le destin des maladies infectieuses » et dans lequel, justement, il a véritablement réfléchi à ce qu'il appelait la naissance, la vie et la mort des maladies infectieuses. Donc il disait quelque chose qui est maintenant quasiment devenu canonique. Il y aura donc des maladies nouvelles, c'est un fait fatal. Un autre fait aussi fatal est que nous ne saurons jamais les dépister dès leur origine. Lorsque nous aurons notion de ces maladies, elles seront déjà toutes formées, adultes pourrait-on dire. Comment les reconnaîtrons-nous, ces maladies nouvelles? Comment soupçonnerons-nous de leur existence avant qu'elles n'aient revêtu leur costume de symptômes? Alors, comme je vous disais, bien sûr, c'était les termes de l'époque. Ça manque peut-être un petit peu de biologie moléculaire, de biologie cellulaire, mais n'empêche que l'idée y était. Le seul petit élément qu'on peut rajouter en lisant entre les lignes, c'est une espèce de fatalisme, d'impression que bon, bah, c'est comme ça, ça arrivera toujours, et qu'est-ce qu'on peut y faire? C'était encore une époque où il n'y avait quasiment pas de vaccins, où il n'y avait pas d'antibiotiques. C'était un peu compréhensible, finalement, qu'on développe une espèce de fatalisme. La question est de savoir si on a fait mieux depuis avec les vaccins, les antibiotiques, la connaissance de l'épidémiologie, les développements de l'hygiène, et si on peut, justement, et c'est pour ça que j'avais demandé à Antoine de venir nous informer sur son travail, si on peut essayer d'aller, disons, plus vite et plus près sur les événements d'émergence, essayer de les traquer et de les repérer plus facilement de façon à pouvoir prendre des mesures très rapides et éviter des catastrophes et des pandémies planétaires comme le sida, par exemple. Donc voilà un petit peu l'état d'esprit dans lequel on est. Alors, donc, Charles Nicolle avait fait des prévisions, des prédictions, pourrait-on dire. La question est de savoir, c'est finalement, qu'en est-il advenu ? Est-ce qu'il avait vu juste dans cette prédiction qu'il y aurait toujours des maladies infectieuses ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est paru en début d'année 2008, l'année dernière maintenant, un travail d'une chercheuse épidémiologiste anglaise qui s'appelait Kate Jones, dont le titre était « Global Trends in Emerging Infectious Diseases », c'est paru dans Nature, donc dans une grande revue. Et la méthodologie du travail peut être éventuellement discutée, critiquée, dans la mesure où ce qu'elle a essayé de faire, c'est, et son équipe bien entendu, c'est de voir entre 1940 et 2004, c'est-à-dire quelques années, finalement ça commence quelques années après la mort de Charles Nicoll, qu'est-ce qui s'était passé ? Combien y avait-il eu d'émergences de maladies infectieuses et quelle était la nature, finalement, des maladies qui avaient émergé et d'où venaient-elles, finalement, si tant est qu'on puisse le savoir à chaque fois. Et le chiffre qui est sorti de cette analyse est assez spectaculaire, puisque donc de 1940 à 2004, elle a pu relever, ou son équipe a pu relever, 335 maladies émergentes, donc détectées, avec une croissance régulière depuis les années 40 jusqu'aux années 1980, qui ont été des années, je dirais, pics pour l'émergence de maladies infectieuses, puisque dans la décade 1980, on a pu relever jusqu'à une centaine de nouvelles maladies, c'est-à-dire une centaine de nouveaux micro-organismes, nouveaux, pas nouveaux dans leur réalité biologique, mais nouveaux comme infectant et se développant et infectant l'homme, en sachant bien entendu qu'il existait à cette période, ou qu'il a existé à cette période, un énorme biais qui était celui du sida, sida non traité à cette époque, donc immunodéficit profond, donc émergence d'un certain nombre de micro-organismes, bactéries, virus, parasites, qu'on n'avait jamais vu se développer jusqu'à présent comme pathogènes chez l'homme. Ça a donc beaucoup, je dirais, contribué à cette impression d'accélération brutale qui, depuis que le sida est globalement, en tout cas dans nos régions, pris en charge, a commencé à diminuer, mais on a à un rythme régulier soutenu la survenance de nouveaux micro-organismes. Alors, dans cette étude, encore une fois, il y a des biais qui expliquent un certain nombre de choses. Par exemple, une prédominance paradoxale d'émergence de maladies infectieuses dans les régions de haute latitude, dans nos régions, par exemple. Alors, la raison en est probablement très simple, c'est que la méthodologie de ce papier a été de prendre le Journal of Infectious Disease, et puis qui est un journal un peu de référence pour les microbiologistes et les spécialistes de maladies infectieuses. C'est donc là souvent qu'ils vont publier leurs articles. Et finalement, d'une manière ou d'une autre, ça crée un biais parce que les cliniciens, les microbiologistes dans l'Afrique subsaharienne, globalement, ils n'ont pas accès à ce genre de journaux. Donc ce type d'élément va être sous-identifié, sous-déclaré et sous-publié, ce qui introduit bien entendu des biais méthodologiques. Donc je pense qu'on peut considérer que cette prédominance dans les régions de haute altitude est sans doute quelque part quand même un petit peu biaisée. Deuxième élément important qui, alors là, est probablement tout à fait indiscutable et je pense que dans le temps, la fréquence va sans doute augmenter, c'est que l'émergence de maladies infectieuses chez l'homme est dominée par des zoonoses, c'est-à-dire par des maladies de l'animal dont le micro-organisme en cause est transmis à l'homme. Parmi ces 60% dans l'effectif global des 335 qui ont été relevés, près des trois quarts, en fait, et c'est ça qui est intéressant parce qu'on vivait souvent sur des vieilles idées selon lesquelles la transmission des virus de l'animal à l'homme, c'était souvent des animaux domestiques et des choses comme ça. Il est très clair que les trois quarts quasiment de ces infections viennent à partir de la faune animale sauvage. Et c'est le cas, bien entendu, pour des virus que vous connaissez, le VIH, le Lassa, le Marburg, l'Ebola, le virus du Strass. Il y a quand même un certain nombre de bactéries et de rickettsies qui sont représentées dans cette statistique à un pourcentage qui est relativement élevé, plus de la moitié. Et là encore, il y a un biais qui est lié en particulier au fait qu'ont été rapportées dans ce journal systématiquement toutes les émergences de nouveaux phénomènes de résistance aux antibiotiques, genre, par exemple, le staphylocoque résistant à la méticilline, l'entérocoque résistant à la vancomycine. À chaque fois qu'une résistance antibiotique un peu spéciale apparaît et qu'elle donne lieu à des épidémies hospitalières, elle apparaît dans ces journaux sous forme d'infections émergentes. Donc on a, comme vous le voyez, un certain nombre de biais. Mais je crois que ce qui est important pour le thème qui va nous intéresser, et j'espère vous intéresser aujourd'hui, c'est cette notion de faune sauvage, source d'émergence, qui, je crois, est maintenant un élément tout à fait établi. Alors, si on regarde les choses dans une perspective un petit peu plus large. Ce qu'on peut dire, c'est que même aujourd'hui, il existe des schémas de survenue de l'émergence, et en réalité, les éléments qui prédominent dans cette survenue de l'émergence sont des facteurs socio-économiques, des facteurs environnementaux et des facteurs écologiques. Alors, dans les pays industrialisés, parce que, comme l'a montré cette statistique, on continue à avoir des maladies émergentes dans les pays industrialisés, disons que les deux grandes causes possibles de survenue de nouvelles infections, c'est la chaîne alimentaire industrielle dans laquelle vont se glisser des micro-organismes qui sont capables de survivre, pas nécessairement de se multiplier, mais au moins de survivre dans les conditions en particulier de la chaîne du froid. C'est le cas, par exemple, de l'Listeria monocytogenes. Les environnements complexes à risque, en particulier l'hôpital, comme vous le savez, qui est malheureusement, par la force des choses, un environnement à risque dont certains aspects sont pas toujours maîtrisés et souvent difficiles à maîtriser. Mais bien entendu, la source majeure, telle qu'on l'anticipe tous, de l'émergence infectieuse dans les années à venir, ce sera sans doute ce qu'on appelle les pays en voie de développement, à cause d'un certain nombre de facteurs. Tout d'abord, la concentration des populations à la périphérie des grandes mégapoles qui sont en train d'émerger en Asie du Sud-Est, en Afrique, en Inde, avec des populations qui vivent là dans des conditions d'hygiène précaires, sous-éduquées et donc pas nécessairement capables d'eux-mêmes de se protéger contre ces infections, considérant bien entendu que l'environnement se prête à la survenue de maladies infectieuses. Il y a la problématique de la croissance donc, de la population et de l'invasion des zones forestières qui augmente les risques d'interaction, d'interface nouvelle entre l'homme et des animaux ou des vecteurs, des insectes par exemple, qu'en d'autres circonstances on n'aurait jamais rencontré. Et puis il y a un élément qui, je crois, il faut prendre en considération pour l'avenir, qui est le fait que nos situations de pays industrialisés en fait se développent, se déploient à l'heure actuelle dans ce qu'on peut considérer comme les pays en émergence. C'est-à-dire les pays en voie de développement qui sont sur la voie d'un schéma de développement industriel, et ces pays sont en train de développer des chaînes alimentaires industrielles, sont en train de développer leur système hospitalier, sont en train de développer des grands immeubles administratifs avec des bureaux, de l'air conditionné, et il est clair que bien souvent dans ces pays, disons, les critères de sécurité et d'hygiène n'ont pas atteint les exigences qu'on peut avoir, nous, du fait d'un certain nombre d'accidents dans les pays industrialisés. Donc il y a un risque majeur à l'heure actuelle de développement d'infections dans les pays émergents à partir de situations qu'on considérait comme classiquement être des problématiques de pays industrialisés. L'infection nosocomiale, par exemple, on voit toujours les pays en voie de développement sous l'angle des infections classiques, parasitoses, maladies entériques, et ainsi de suite. Quand on parle avec nos collègues cliniciens africains, leur problème majeur, c'est l'infection nosocomiale. Bien souvent, au Niger, je parlais avec un chirurgien il n'y a pas très longtemps du Niger, 60% des plaies chirurgicales sont infectées en post-opératoire. Ce qui veut dire que tout ça est en train de se mettre en place et de créer, du fait de la mauvaise utilisation souvent des antibiotiques, comme nous on les utilisait mal il y a 20 ou 25 ans, des conditions non maîtrisées d'explosion de situations infectieuses ennuyeuses. Alors tout ça est sous-tendu, bien entendu, par la croissance soutenue, en tout cas jusqu'en 2050 probablement, de la population mondiale, qui ne va sûrement pas aider à arranger les choses, parce que les situations économiques, les crises telles qu'on les connaît à l'heure actuelle font que, comme d'habitude, ce sont les plus pauvres qui vont s'appauvrir. Un autre élément, c'est le vieillissement des populations. Les personnes âgées sont plus sensibles aux infections, sont moins susceptibles de répondre efficacement aux vaccins. Donc il y a toute une problématique là qu'il va falloir prendre en considération. Et puis, bien entendu, le fait que tout ça, à l'échelle de la planète, est devenu ce qu'on dit toujours un village global, c'est-à-dire que l'augmentation des voyages, 2 milliards de passagers aériens en 2006, fait qu'il n'y a pas de zone qui soit privilégiée, que tout peut s'échanger à tout moment, et on l'a vu par exemple avec le SRAS sur lequel on reviendra. Donc tout ça fait dire que notre planète est en permanence sujette à des phénomènes d'émergence de nouvelles maladies infectieuses, ou d'anciennes qui réémergent éventuellement sous des formes un petit peu différentes, par exemple la tuberculose liée à des bacilles de corps résistants ou multirésistants aux antibiotiques, ce qui donne souvent un profil différent et un pronostic, bien sûr, bien plus péjoratif à ce type de maladie. Mais lorsqu'on commence à planter ces phénomènes d'émergence sur la carte, on voit effectivement qu'ils peuvent survenir absolument dans toutes les régions de la planète, largement liés à des émergences de nature virale, mais aussi à des champignons, des levures et un certain nombre de bactéries. On verra un certain nombre d'exemples, encore une fois, plus centrés sur l'émergence de maladies virales. De 2003 à 2007, l'OMS a répertorié 1100 épidémies, ce qui est quand même tout à fait considérable et montre qu'on vit tout de même dans une situation qui reste largement à risque quand on regarde ces chiffres. Donc 60% des émergences, à peu près, vous avez vu le chiffre, infectieuses de 1940 à 2004 ont été d'origine animale. Donc l'essentiel de ces nouveaux virus qui émergent est issu du monde animal et en particulier, on l'a dit, des animaux sauvages. Alors on utilisera, je fais un tout petit peu de sémantique là pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, le terme d'épizoo aussi, qui sont des maladies qui frappent simultanément un grand nombre d'animaux de la même espèce ou d'espèces différentes, on parle alors de panzoo aussi. Et puis on parlera aussi, mais beaucoup moins, d'endozoo aussi, ce sont des maladies qui frappent vraiment une région de façon constante avec une incidence stable et à des époques éventuellement déterminées. En fait, on reconnaît des profils évolutifs dans les maladies animales qui sont assez proches de ce qu'on observe chez l'homme. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que la plupart de ces nouveaux virus apparus ces 30 dernières années, disons, dans la population humaine, et vous en connaissez les noms, le virus du SRAS, qui est un coronavirus, le virus Antane, le virus Ebola, Lassa, Marburg, qui sont responsables de fièvres hémorragiques d'origine essentiellement africaine, le virus Nipah, le virus Indra dans les régions du sud-est asiatique, les deux VIH, bien entendu, le virus West Nile, le monkeypox, qui est donc le virus de la variole du singe. Tout ça sont des virus qui occupent largement le devant de la scène en matière d'émergence, qui étaient souvent inconnus ou virtuellement inconnus, très peu étudiés par le monde de la virologie, en particulier vétérinaire, avant qu'ils n'apparaissent et prennent, si on peut dire, un peu leur maître de noblesse en causant des infections chez l'homme. Et en fait, ces virus, et je pense qu'Antoine Gessin reviendra un petit peu là-dessus aussi, dans l'esprit général de son travail, ne représentent qu'une petite fraction des espèces virales animales avec lesquelles l'homme entre en contact et que l'homme est susceptible éventuellement avec lesquelles l'homme est susceptible éventuellement de s'infecter, même si, heureusement, j'imagine, l'immense majorité de ces événements de passage ne vont pas donner à lieu au développement d'une infection, et on verra pourquoi tout à l'heure. Enfin, on essaiera de mettre en place un certain nombre des éléments. On est au cœur de cette notion, justement, heureusement, je dirais, de barrière d'espèce. Alors, beaucoup de ces infections dont je viens de vous parler, les infections virales, sont nées, et je crois que c'est clair, j'imagine, ou j'espère en tout cas depuis le début de cette présentation, de conditions écologiques et de mise finalement en contact de cette faune sauvage avec l'homme par des changements d'habitude, et en particulier, un des éléments, c'est bien entendu l'invasion du milieu forestier par des populations humaines pour des raisons de survie, de chasse, de couper du bois, et vous connaissez toutes les conséquences que ça peut avoir par ailleurs sur le plan écologique avec la destruction, par exemple, de certaines forêts africaines ou de la forêt amazonienne. Donc, tout ça crée un degré de fréquence de contact entre le donneur et le nouveau receveur, et c'est une condition première pour le succès d'un saut viral d'espèce. Il faut qu'il y ait probablement un certain nombre de situations d'exposition pour qu'à la fin, pour une raison ou pour une autre, éventuellement, un événement survienne. Et donc, ça implique des facteurs géographiques, écologiques et comportementaux. Il y a des facteurs aussi qui modifient la distribution géographique de l'espèce hôte. C'est par exemple le commerce d'animaux sauvages, problème de la civette, hein, des félidés en Asie et du démarrage de l'épidémie de SRAS. l'introduction de nouvelles espèces domestiques, et puis, bien entendu, comme je l'ai déjà dit, l'incursion croissante en milieu forestier. Il y a des facteurs aussi qui éliminent les différences de comportement, la chasse d'animaux sauvages, la consommation d'animaux sauvages, qui semble être une cause majeure de survenue de nouvelles émergences, la consommation de singes en particulier par certaines populations africaines, est en cause dans certaines survenues d'émergences, en particulier par exemple probablement l'Ebola, au moment du dépeçage des animaux. Et puis, toujours, la présence de vecteurs, en particulier d'arthropodes, adaptés, certains mieux, certains moins bien, à ces micro-organismes qui vont, par piqûre, pouvoir les transférer à l'homme. Donc, un certain nombre de situations, finalement, de mise en contact entre l'espèce humaine et ces espèces animales sauvages, qui, en d'autres temps, existaient à une échelle relativement limitée et qui sont en train, bien entendu, de s'amplifier et donc d'augmenter le spectre du risque de transmission. Alors, on a parlé de contact direct entre l'homme et éventuellement l'animal qui héberge ce virus. On a parlé éventuellement de vecteurs. Ce qui émerge aussi de plus en plus dans l'ensemble de cette chaîne éventuellement de transmission de virus émergents, c'est l'existence d'animaux intermédiaires ou d'animaux amplificateurs. Et curieusement, on pourrait en citer un certain nombre, peut-être le chimpanzé pour le sida, par exemple, mais curieusement, on s'aperçoit de plus en plus dans les études épidémiologiques de transmission d'infections virales en Asie, par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure du virus Nipah, que la chauve-souris est un réservoir viral manifestement extrêmement important. Alors, qu'est-ce qui fait que l'homme vient en contact de la chauve-souris? Par exemple, l'épidémie de virus Nipah, il y a quelques années en Malaisie, qui continue d'ailleurs encore à l'heure actuelle, a été facilitée par le développement de l'élevage intensif du porc, qui est devenu une espèce d'éléments importants de l'économie rurale en Malaisie. Et pour élever des porcs, il faut avoir à la périphérie de ces porcheries un certain nombre de végétaux, de fruits qu'on peut leur donner à manger comme ça, puisque souvent cet élevage de porcs est un élevage un peu autarcique, ça ne s'inscrit pas dans un élevage industriel comme on peut le voir dans les régions occidentales. Donc ce qu'on fait très souvent les gens qui font marcher ces porcheries, si je puis dire, ça a été de planter autour de ces zones des vergers, donc de cultiver des fruits qu'ils pouvaient utiliser pour leur propre consommation d'ailleurs, mais aussi bien entendu pour donner aux porcs qui, comme vous le savez, mangent tout ce qu'on leur donne. Et cette constitution d'un nouvel écosystème autour de ce type de site a donné lieu à la prolifération d'espèces de chauves-souris qui ont en anglais un nom qui est tout à fait suggestif, puisqu'elles sont appelées fruit bats, c'est-à-dire la chauve-souris du fruit, qui, comme vous le voyez, sont des animaux qui sont capables de manger ces fruits. Et pour des raisons qui, disons, sur le plan maintenant fondamental, immunologique, ne sont pas bien connues, il semble que, peut-être Antoine, tu as des éléments là-dessus, que la chauve-souris soit sujette à devenir un réservoir pour la prolifération d'un certain nombre de virus sans contrôle particulier. Donc on va se retrouver avec cet animal, avec l'amplification massive sur certaines zones de certaines populations virales, avec lesquelles, bien entendu, le contact avec l'homme ensuite va devenir relativement facile puisqu'on est là dans une zone d'élevage et les transmissions se font. Alors, c'est la même chose, je pense que pour ceux d'entre vous, celles d'entre vous qui ont lu sur l'épidémie de SRAS de 2002 à 2003, on a beaucoup mis l'accent sur le rôle d'un petit félin chinois qui s'appelle la civette himalayenne ou la civette palmée. Il semble qu'en réalité, la civette ne soit qu'un élément de transmission dans cette chaîne, et on verra un petit peu les éléments moléculaires qui ont amené à ça, et que le vrai réservoir primaire de ces virus, de ces coronavirus du SRAS, soit en fait initialement la chauve-souris, avec des sauts d'espèces vers les félidés qui ont préparé la possibilité d'un saut d'espèces ensuite vers l'homme. Donc un sujet qui est tout à fait passionnant, je pense, à étudier, y compris en termes fondamentaux, c'est pourquoi certains animaux peuvent devenir des sacs à virus et ne pas contrôler mieux ce processus d'infection. dans la mesure où bien souvent, ces virus ne sont pas pathogènes, c'est-à-dire l'animal survit très bien avec des titres viraux extrêmement importants. Alors, si on essaye de mettre les choses un tout petit peu en perspective, on peut voir, et je pense qu'Antoine nous en reparlera aussi, finalement, dans l'émergence d'une nouvelle maladie virale, trois stades possibles, dont certains vont finalement ne pas aboutir à l'existence d'une maladie ou d'une épidémie, et d'autres, éventuellement, vont y aboutir. Donc il faut bien entendu envisager un épisode accidentel. On a vu ces contacts, par exemple, en milieu forestier avec la faune sauvage, d'infection d'un nouvel hôte. Alors, en l'occurrence, bien entendu, le nouvel hôte, ce sera nous, sans véritable transmission secondaire. Alors, en anglais, on appelle ça « spillover », on peut appeler ça « débordement », c'est-à-dire d'un seul coup, un virus qui est adapté à une espèce animale sauvage va déborder dans l'espèce humaine. Heureusement, dans la plupart du temps, ceci va se terminer par ce qu'on appelle une « dead end », c'est-à-dire par une impasse virologique chez l'homme. Les choses vont avorter et tout se passe bien, même si on pourra sans doute trouver une trace sérologique, quelque chose qui signe que à un moment ou un autre, cet individu a été en contact avec un virus avec lequel, a priori, il n'aurait pas dû être en contact. Un peu plus ennuyeux sur l'évolution des choses, ces débordements successifs peuvent, de temps à autre, donner lieu à une chaîne locale limitée de transmission dans la nouvelle population touchée, au sein d'une famille, au sein d'une communauté. Donc on va voir là ce qu'on appelle un outbreak ou une flambée infectieuse, qui va souvent, heureusement, encore une fois, retomber. Alors pourquoi ce type d'événement arrive? Probablement parce que dans certaines circonstances, peut-être pour des raisons génétiques, du côté de ses hôtes, de cette famille, sans doute du fait d'un inoculum massif lié à peut-être une amplification par les animaux intermédiaires dont je vous ai parlé, on va voir un petit peu plus d'individus qui vont être concernés. Mais pour l'instant, les choses restent encore, je dirais, sous contrôle par l'espèce humaine. Et puis la troisième étape, bien entendu, qui est la plus dramatique, faut pas avoir peur des mots, c'est l'épidémie qui s'installe, voire l'épidémie qui se transforme en une pandémie, c'est-à-dire qui s'étend à l'échelle d'un continent ou de la planète, du fait, finalement, d'une chose qui est très, très importante, et je crois que j'y reviendrai plusieurs fois, et je pense qu'Antoine pourra en discuter aussi, de la transmission. C'est-à-dire, on peut imaginer en théorie, finalement, qu'un virus puisse s'introduire dans notre organisme, y donner une maladie, voire nous tuer. C'est possible. C'est la grippe aviaire, H5N1, et on y reviendra à la fin. Mais ça, bien sûr, le passage d'espèce a été transcendé. Et le virus a réussi à passer cette frontière, à passer cette barrière. Malgré tout, on peut dire que le cahier des charges n'est pas complètement rempli, parce que pour qu'une maladie soit vraiment une maladie, il faut, dans l'occurrence, qu'elle puisse se transmettre ensuite d'homme à homme. Donc, moi, j'ai tendance à faire rentrer dans ce concept de barrière d'espèce non seulement la possibilité d'être infecté et de développer une maladie, mais aussi la possibilité ensuite que, dans cette nouvelle espèce, chez l'homme, le virus puisse se transmettre d'un individu à l'autre et créer vraiment la situation épidémique. Alors, il y a de multiples variables, comme vous pouvez l'imaginer, qui vont affecter ce processus d'émergence, le type et l'intensité du contact entre le réservoir de virus et le nouvel hôte, la qualité, la nature des barrières de l'hôte à l'infection, combinées à des facteurs viraux, et les déterminants du passage d'hôte à hôte, les modes de contamination, éventuellement indirects, par des vecteurs. Alors, autour de cette émergence, finalement, s'est développée, s'est bâtie toute une épidémiologie théorique qui permet, en fait, d'apporter de coller sur ces épidémies une grille d'analyse avec, et vous le lirez peut-être dans les journaux, c'est souvent peu expliqué, ce sigle de R0, qui est un peu le sigle magique dans tout ça, qui est ce qu'on appelle le taux de reproduction de base ou le seuil épidémique. C'est un chiffre qui permet d'évaluer qu'un virus, alors ça peut être un virus connu, comme le virus de la grippe, ou dans le cas de la veille à l'émergence, un virus émergent, va ou est en train de donner lieu véritablement à une épidémie. Donc c'est en fait le nombre moyen d'infections secondaires produites lorsqu'un individu infecté, ici par exemple, dans cette communauté, est introduit dans une population où l'ensemble des individus sont sensibles. Et là, donc, cette valeur va synthétiser le potentiel de transmission d'un agent infectieux par un individu durant toute la période de son infection au début d'une épidémie. Alors, si R0 est supérieur à 1, ça paraît évident, on est en présence d'une épidémie, puis les choses peuvent s'accentuer. Si R0 est inférieur à 1, on est dans une situation d'extinction de l'épidémie potentielle. Alors, pour vous donner des ordres de grandeur, dans une épidémie de grippe saisonnière, le R0 il est de 1,5 à 2,5, c'est-à-dire en moyenne, un individu va transmettre la grippe à entre 1,5 et 2,5 personnes. C'est même faible hein, quand on y réfléchit. On imaginerait que les chiffres soient plus importants. Ça dépend aussi sans doute considérablement de la nature de la communauté dans laquelle l'étude est faite. Dans les grandes pandémies comme la grippe espagnole ou les pandémies de grippe de 57 ou de 68, vous voyez que les R0 n'étaient pas monstrueusement élevés, 2 à 3, 1,5 à 2. Alors ce sont souvent des études qui sont biaisées, qui sont rétrospectives, dans la mesure où on n'a pas nécessairement tous les éléments, mais ça reste une valeur, ce seuil épidémique, qui est important à prendre en considération. Ce qui est intéressant, c'est par exemple de considérer les maladies infantiles. Vous voyez que le taux de reproduction, le seuil épidémique de la rougeole, c'est de 15. C'est-à-dire qu'un individu, un enfant infecté, va infecter 15 enfants et ainsi de suite. Ce qui montre le côté, disons, épidémique. C'est un index de l'épidémicité du virus. Et la tuberculose, R0 égale 10, ça vous montre on est sensible à un bacille tuberculeux. C'est-à-dire un bacille tuberculeux inhalé peut donner lieu à la tuberculose. C'est des choses qui sont quand même relativement impressionnantes, qu'on prête généralement essentiellement au virus, mais qui existent aussi pour les bactéries. Alors il y a d'autres paramètres, en particulier le taux de croissance, la vitesse à laquelle le nombre de cas augmente, la fraction de la population infectée, tout ça, ce sont des paramètres qui permettent de jauger la gravité de l'épidémie qui est en train de se mettre en place. Alors bien entendu, tout ça, cette épidémiologie théorique qui est en train de se mettre en place autour de ces maladies émergentes, elle a la volonté à terme d'être prédictive, c'est-à-dire de pouvoir prévoir au sein d'une population donnée, urbaine par exemple, si demain, pas peine de faire de la politique fiction et de dramatiser les choses, la grippe aviaire devenait pandémique, à quelle vitesse pourrait-elle se développer dans la région parisienne ? Et il commence à y avoir des approches extrêmement créatives pour essayer d'anticiper les endroits, les flux, les zones et les populations qui seraient les premières éventuellement à en souffrir. Donc je pense que ce que ce schéma montre, c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent, c'est que la plupart de ces événements où la frontière entre un réservoir animal et l'homme est transpercée. La plupart des événements amènent, alors la croix pour une fois ne signifie pas la mort de l'individu mais du virus, amènent à une extinction, une impasse de cet événement possiblement épidémique, mais dans un certain nombre de circonstances, le virus, après quelques passages successifs, là c'est ce outbreak dont je vous ai parlé, cette flambée mais qui va finir par s'arrêter, terminer en impasse, de temps à autre, le virus, pour des raisons sur lesquelles on va revenir, mais qui sont à l'évidence des raisons d'adaptation génétique progressive du virus à l'hôte, va s'installer, augmenter progressivement son fit avec l'hôte humain, et là, l'épidémie va pouvoir partir. Mais vous voyez qu'il y a quand même, à l'évidence, un certain nombre de barrières qui sont établies dans ces situations. Donc, je suis désolé, cette diapositive est en anglais, mais je pense que c'est suffisamment éloquent malgré tout. C'est toujours ce que j'appelle un peu le cahier des charges de l'émergence. C'est-à-dire que s'il manque un élément dans ce cahier des charges, l'émergence ne surviendra pas. Donc, on a quatre facteurs principaux qui sont la nature, l'exposition, en fait, son degré, sa nature. On a la survenue d'une infection, véritablement. C'est-à-dire qu'il faut quand même que le virus se développe chez l'hôte humain pour que quelque chose se passe. Ce fameux élément de transmission interhumaine qui est extrêmement important. Et puis éventuellement, un quatrième élément qu'on peut rajouter, c'est le phénomène d'adaptation, qui est un phénomène continuel, mais qui fait qu'à partir du moment où un virus va réussir à sauter ces différentes étapes, y compris à se mettre dans une situation où l'hôte est capable de le disséminer, ce virus va peu à peu s'adapter et s'incruster, se spécier, si l'on peut dire, dans cette nouvelle espèce humaine dans laquelle il est apparu et donner lieu à une pathologie qui va prendre une allure probablement plus stable devenir éventuellement épidémique de façon annuelle, comme on peut le voir dans certaines épidémies virales comme les rotavirus ou des choses comme ça. Donc, pour revenir un petit peu, et je suis désolé de réinsister, c'est peut-être un biais personnel, mais je pense que la transmission dans tout ça, au-delà du passage de la barrière en termes moléculaires, cellulaires, est une problématique dominante. Et en fait, peut-être on en redira deux mots, mais un des challenges à l'heure actuelle, je pense, dans la compréhension des maladies infectieuses, y compris dans leur modélisation au laboratoire, c'est de comprendre les mécanismes de transmission. C'est d'essayer d'identifier chez le virus, chez la bactérie et chez l'hôte, bien entendu, ce couple cohérent qui fait qu'un virus ou une bactérie va pouvoir se transmettre d'un individu à un autre. Donc, une fois passée la barrière d'espèce, ce qu'encore une fois peuvent faire de nombreux virus vers l'homme, l'étape de transmission interhumaine efficace est indispensable à ce que explose ce phénomène d'émergence d'une épidémie, voire d'une pandémie. Donc, comme je vous l'ai dit déjà, à mon avis, la transmission efficace entre les nouveaux hôtes fait partie intégrante du concept de barrière d'espèce. Il existe des bases moléculaires et cellulaires de cette transmission qui demeurent peu et mal connues. Bon, il y a maintenant des travaux avec les bactéries, je ne sais pas exactement ce qu'on fait avec les virus, qui consistent chez la souris à essayer de gaver une souris avec une batterie de mutants et de voir ceux, ça a été fait avec salmonelle par exemple, salmonella, ceux qui sont transmis et ceux qui ne sont pas transmis d'une souris à l'autre dans une cage. Bon, la modélisation de base. Beaucoup de ces mutants, malheureusement, ne sont pas très informatifs parce que ce sont des mutants qui sont incapables de pousser correctement chez l'autre. Donc, si la bactérie ne pousse pas chez un autre, elle a peu de chances d'être transmise chez l'autre. Mais il y a un certain nombre de mutations dans des gènes qui correspondent en fait souvent à des voies métaboliques, à des choses pas très bien connues, qui amènent une croissance parfaite chez l'hôte initial, qu'on appelle l'individu index, et qui font que cette bactérie, ce mutant, est incapable d'être transféré. Donc il se crée à l'heure actuelle toute une biologie, je dirais, mais qui est très embryonnaire de la compréhension moléculaire, génétique, de la transmissibilité des micro-organismes. Alors, il est évident que la voie de transmission de ces micro-organismes va considérablement impacter sur l'efficacité de la transmission d'individu à individu. Pour un micro-organisme qui donne lieu à une infection aiguë, par exemple, il est clair que la transmission par voie respiratoire, grippe, est un élément essentiel. Ça a été démontré aussi pour le SRAS. Pour peu qu'un vecteur adapté existe, ça a été le cas d'Aedes albopicus pour le virus chikungunya, là aussi, on va pouvoir avoir transmission très, très efficace de maladies sous une forme aiguë. Des infections chroniques qui ne donnent pas lieu éventuellement à une situation clinique éventuellement dramatique immédiate, on va avoir une efficacité additionnelle éventuellement d'autres voies de transmission, comme la transmission sexuelle pour le VIH, par exemple. Donc, en fonction de l'acuité de l'infection ou de sa chronicité, en fonction de la nature des individus, de leurs habitudes, on va avoir différentes situations de transmission qui peuvent amener à des situations épidémiques, voire éventuellement pandémiques. Alors, ça, c'était un peu pour vous donner une idée, je dirais, générale de la situation et de ces concepts d'émergence tels qu'on les manipule à l'heure actuelle. Je pense avoir été relativement clair en disant qu'au cœur de cela, tout de même, si on veut commencer à essayer de comprendre un petit peu les choses, existe cette question, c'est comment un virus est-il capable, on va se rester sur les virus essentiellement, de changer d'hôte. Alors, il y a des facteurs démographiques, il y a des facteurs de pathogénicité cellulaire, tissulaire, organique, au niveau de l'individu en général, et puis il y a bien entendu cette situation de transmission qui, je vous ai dit, je pense, doit faire partie du concept général. Donc, au centre du processus est véritablement ce saut de la barrière. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un virus spécié disons, relativement spécifique d'une ou de quelques espèces animales va pouvoir, à un moment ou à un autre, se développer dans une autre espèce, pour ce qui nous intéresse essentiellement chez l'homme. Et la question de fond, c'est finalement, peut-on donner une définition, en particulier scientifique, hein, c'est de ça dont on est censé parler ici, de cette barrière d'espèce. Alors, pour essayer d'aborder ça, on peut se servir de son bon sens. Peut-on concrètement définir la notion de barrière d'espèce à la diffusion des pathogènes ? On dit barrière au singulier. En fait, vous comprenez bien que c'est l'association, l'intrication de plusieurs barrières. On va avoir une barrière, appelons-la physico-chimique, par exemple. Les poules ont une température corporelle supérieure à la nôtre. Donc les virus des poules qui sont adaptés à pousser à 41 degrés vont avoir du mal à pousser chez un individu dont la température corporelle est 37 degrés. Bon, c'est des choses de base un peu évidentes. Je ne pense pas vous emmener trop à travers ces problèmes-là. Il y a une barrière moléculaire, au niveau en particulier des épithélia, qui sont la source générale de la transmission des processus infectieux. Et puis, il y a bien entendu, en appui de cette barrière moléculaire, bien sûr, une barrière immunologique qui naît adaptative. On en a déjà beaucoup parlé, donc je pense que je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails de tout ça. Donc, si on regarde, encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, le cahier des charges de ce changement, finalement, d'espèce pour un micro-organisme, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Il faut qu'il soit capable, s'il veut, partant d'un individu ou d'un animal donné, se développer chez un autre animal, d'une autre espèce ou chez l'homme, être capable d'adhérer à une surface muqueuse qui, pour lui, est nouvelle. Donc toute la problématique des récepteurs va se poser dans cette situation. Il faut qu'il soit capable de coloniser cette surface. Donc il y a un problème de survie, d'adaptation aux mécanismes de défense qui peuvent être différents. Il faut qu'il soit capable, bien entendu, d'envahir ces surfaces tissulaires. Il faut qu'il soit capable de résister aux défenses innées, il faut qu'il soit capable de se multiplier, de se répliquer à l'intérieur de l'individu, il faut qu'il soit capable de diffuser à l'intérieur de l'individu à partir du foyer initial d'invasion, ce qui veut dire passage, en fait, éventuellement de plusieurs barrières, la barrière intestinale, la barrière vasculaire, la barrière hémato-encéphalique, si c'est un virus qui va donner lieu à des infections du système nerveux central, et puis il faut qu'il soit capable d'envahir les organes avec éventuellement un processus, un potentiel pro-inflammatoire, destructeur, comme on peut le voir dans les pneumonies ou les pneumopathies qu'on observe au cours d'infections comme la grippe ou comme le SRAS. Et puis, bien entendu, deuxièmement, qu'il ait la possibilité, une fois ce cycle chez un individu donné effectué, que ce nouvel individu puisse transmettre à un autre individu et que le même processus puisse se reproduire. Donc, il y a... Vous le voyez là, potentiellement, en termes moléculaires, cellulaires, d'organes, un certain nombre de barrières, et on peut se dire que même si un micro-organisme est susceptible d'effectuer la première étape, s'il n'est pas susceptible de faire la deuxième ou la troisième, il va s'arrêter, et ça va être la cause de cette impasse virologique ou microbiologique en général, dont on a déjà parlé. Ce qui, d'emblée, vous indique que l'analyse moléculaire et cellulaire de cette barrière, elle va essayer de se cadrer autour de l'analyse de ces différentes étapes. Et c'est là que les complications commencent, parce que l'analyse de l'adhésion, c'est assez familier, les ligands, les récepteurs, on connaît bien, souvent ils sont connus. Les mécanismes particuliers à un virus de replication chez un autre, dans une cellule chez un autre, et les différences qui peuvent exister dans ce contrôle dans une cellule d'un autre hôte sont des situations d'une complexité énorme qui implique énormément d'interactions moléculaires. On n'est plus dans une situation un ligand, un récepteur, on est dans une situation une molécule, 10 molécules, je vous en montrerai un exemple tout à l'heure, et là, la compréhension des mécanismes de spécificité d'espèces sont beaucoup plus difficiles. Alors, en fait, il y a deux façons, je dirais, hein, en simplifiant un peu les choses, d'analyser cette barrière d'espèces. Il y a une façon expérimentale, mais qui, comme vous allez le voir, a ses limites, qui consiste en fait à essayer d'humaniser la souris. C'est-à-dire de prendre une souris qui est résistante, parce que le microbe qu'on essaye de lui injecter est un microbe spécifique de l'espèce humaine, et d'essayer de faire changer chez cette souris, par transgénèse, un certain nombre de molécules clés, en particulier le récepteur à la surface. On va lui mettre un récepteur humain à la place de son récepteur à elle, son récepteur murin, et essayer de voir si, par ces étapes expérimentales, disons successives, on peut arriver à reconstruire une souris par transgénèse multiple qui soit sensible à ce micro-organisme qui ne lui est pas naturellement associé. Alors ça, c'est très bien, c'est vraiment l'approche expérimentale, bien entendu, par essence, pour essayer de définir la barrière d'espèce. Elle est biaisée, en fait, de plusieurs façons. La première, c'est qu'elle est biaisée surtout vers les récepteurs primaires, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que le virus peut s'associer à une surface muqueuse, par exemple, mais elle a du mal, souvent, vu la complexité que j'ai soulevée, à analyser les étapes ultérieures. Et puis, elle a cette limitation, bien entendu, qu'elle analyse le couple homme-souris et qu'elle n'analyse pas le couple chauve-souris-homme ou singe-macaque-homme ou des choses comme ça. Donc, ce qui va être valable pour le couple homme-souris n'est pas nécessairement valable pour d'autres situations, disons, moins expérimentales. Malgré ça, on a pu, et c'est une façon, par exemple, de valider la nature du récepteur, faire un certain nombre de souris transgéniques en leur faisant exprimer le récepteur humain au virus humain et faire que ces animaux développent tout ou partie d'une infection, donc valider véritablement la nature de ce récepteur primaire comme récepteur au virus. Alors ça a été fait pour plusieurs entérovirus, par exemple, en particulier le virus de la poliomyélite. Ça a été fait pour le virus de l'hépatite C, ça a été fait pour le virus de la rougeole, ça a été fait pour le VIH, mais vous allez voir les limites, et ça a été fait pour un certain nombre de micro-organismes de nature bactérienne, tous micro-organismes qui sont pour l'essentiel très spécifiquement adaptés à l'espèce humaine et pour lesquels on a énormément de mal à développer des modèles expérimentaux, donc on est amené souvent pour ces raisons-là à développer ces souris transgéniques. Alors, l'expérience, je dirais, Princeps, hein, je pense que c'était la première, Antoine, c'est celle du groupe de Vince Racaniello à New York au début 1990, au début des années 90. Vous savez que le virus de la poliomyélite, en fait, ne donne pas lieu à la maladie chez la souris, à moins de l'inoculer directement par voie intracérébrale, ce qui n'est pas nécessairement quelque chose de... Enfin, c'est très artificiel, en fait, bien entendu. Donc, voyant cela et connaissant le récepteur ou ayant fini par identifier le récepteur, qui est une molécule qui s'appelle CD155, qui est en fait un récepteur de la famille des immunoglobulines avec ses quatre domaines, D1, D2, D3, D4, qui sont formé par des ponts disulfures entre deux cystéines ici. Le groupe de Racaniello donc, a construit une souris transgénique qui, à la place du CD155 murin, exprimait le CD155 humain. Et ce qu'ils sont arrivés à faire, c'était vraiment le premier modèle de transgénèse étudiant la spécificité d'espèces d'un pathogène, c'était d'avoir des animaux qui étaient susceptibles de faire la poliomyélite cette fois-ci après injection intraveineuse et non plus après injection directement dans les ventricules cérébraux. Par contre, lorsque ces animaux sont inoculés par voie orale, qui est en fait la voie de contamination normale, naturelle, par le virus polio, ces souris restent résistantes au virus de la poliomyélite. Ce qui veut dire en fait que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut reproduire par ce type de modèle une partie du cahier des charges de l'émergence virale à l'intérieur d'une nouvelle espèce, mais là, en l'occurrence, il en manque. Et après, tout est soumis à votre capacité scientifique de générer des idées et de les prouver quant à ce qui est nécessaire en termes moléculaires pour procéder aux autres étapes. et puis surtout à la difficulté de construire des souris transgéniques qui exprimeraient 5, 10, 20 molécules de nature humaine, ce qui pour l'instant est quasiment techniquement impossible. Alors, le même type de situation, et c'est intéressant, j'ai mis cette diapositive simplement pour vous montrer que ce type d'approche permet quand même d'avancer dans un certain nombre de choses. Dans le virus de la rougeole, par exemple, des travaux ont montré que probablement le CD46, qui est un cofacteur de la membrane cellulaire, qui est important dans la régulation de l'activité du complément, est le récepteur en fait du virus de la rougeole. Et effectivement, lorsque on fait une souris transgénique dont le CD46 murin est remplacé par le CD46 humain, on a le développement du virus. À défaut d'avoir une maladie qui ressemble complètement à la rougeole, on a un certain nombre d'éléments cliniques, y compris l'immunosuppression, qui sont assez proches de la maladie naturelle. Ceci dit, il faut des inoculats très très forts et des études dans un deuxième temps par rapport aux études de Michael Holstone initialement ont montré qu'en réalité, curieusement, ce CD46 c'était le récepteur du vaccin rougeole, c'est-à-dire du virus atténué de la rougeole qui, par des modifications successives dans son hémagglutinine en particulier, a acquis cette affinité importante pour le CD46. En réalité, le vrai récepteur du virus de la rougeole, et ça a été montré ensuite par des études de laboratoire, encore une fois, de transgénèse, c'est une molécule qui s'appelle HSLAM, qui est une molécule de signalisation pour l'activation des lymphocytes, CD150, qui est exprimée surtout sur les cellules du thymus, les lymphocytes activés, les macrophages, les cellules dendritiques. Et ces cellules, ces animaux transgéniques, cette fois-ci exprimant HSLAM, effectivement développe une maladie qui est relativement proche de la rougeole, avec en particulier le déficit immunitaire, qui est, comme vous le savez, un des signes transitoires après l'infection morbilleuse. Donc, ces modèles, quand même, amènent de l'information, amènent de la compréhension et amènent même à discriminer entre deux virus qui sont de la même origine, c'est-à-dire le virus sauvage et éventuellement le virus qui a été repassé pour donner lieu à une souche atténuée qui va donner la maladie. Alors, pour rester dans cette étude de la spécificité d'espèces par l'intermédiaire des animaux transgéniques, de la souris, une des très jolies études récentes, c'est le travail d'un chercheur de l'Institut Pasteur qui s'appelle Marc Lecuy, initialement dans le laboratoire de Pascal Cossard. Je vous ai déjà parlé de l'hystéria, qui est un des jolis modèles de compréhension de la pathogénicité. Et je vous avais montré en fait que la problématique de l'hystéria monocytogénèse, c'était de passer la barrière de l'épithélium intestinal et puis éventuellement ultérieurement de passer la barrière hémato-encéphalique ou la barrière placentaire, et qu'elle le faisait en se liant à une molécule d'adhésion entre les cellules de l'épithélium intestinal qui s'appelle la cadérine ou E-cadérine, qui est exprimée à la surface de ces cellules épithéliales du côté basolatéral. Donc il faut que la bactérie puisse s'engager et se lier à ce récepteur de manière à pouvoir ensuite pénétrer, transloquer à travers cette barrière épithéliale. Or, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que la souris, naturellement, au niveau intestinal, est résistante à cette association de l'hystéria et à cette translocation de l'hystéria monocytogénèse à travers cette barrière épithéliale intestinale. Et ce qui a pu être montré, c'est qu'il existe en fait une différence très faible, puisqu'un seul aminoacide, une proline 16 sur la E-cadérine humaine, assure cette spécificité de cette molécule riche en leucine qui s'appelle l'internaline A. Et si cette proline 16 est transformée en une glutamine 16, on perd cette spécificité, on perd cette capacité d'affinité entre l'internaline et la E-cadérine. Donc, sur un acide aminé, se définit finalement la spécificité d'espèce pour l'hystéria monocytogénèse chez l'homme par rapport à la souris. Maintenant, si dans un modèle cellulaire, on fait exprimer sur des cellules de souris une cadérine humaine, on a de nouveau restauré l'invasion. Et si on échange les acides aminés, on peut maintenant obtenir un gain de fonction. C'est-à-dire que si on fait une cadérine de souris qui exprime cette fois-ci la proline 16, qui est caractéristique signature de la sensibilité chez l'homme, la bactérie est capable de rentrer. Et ces souris transgéniques qui expriment cette cadérine humaine, en fait, sont sensibles à l'infection par Listeria monocytogenes, alors que les souris sauvages ne le sont pas. Alors, plus intéressant, enfin, pas plus intéressant, mais en image, en miroir, une autre série d'expériences a été faite par un groupe en Allemagne. Ça a été publié dans Cell en 2007. Le premier auteur était Wollert, qui a consisté à faire, vous montrer quand même la complexité de ces systèmes, mais leur intérêt aussi, à faire l'expérience inverse. C'est-à-dire non plus d'humaniser la souris en lui faisant exprimer la cadérine humaine récepteur, mais entre guillemets de muriniser l'internaline A, c'est-à-dire la molécule de la Listeria monocytogenes qui permet l'adhésion à l'épithélium, de manière à ce qu'elle puisse reconnaître la cadérine de la souris. Et ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait par biologie structurale, c'est-à-dire qu'ils ont regardé comment le domaine N-terminal, hein, je vous avais montré la dernière fois, de la cadérine peut s'associer avec l'internaline A, et ils ont défini deux aminoacides, la sérine ici en 192 et une molécule, un acide aminé en 369, la tyrosine, qui sont clés dans cette interaction parce qu'en fait, ils permettent de s'associer par des lésions hydrophiles à ces boucles ici qui sont caractéristiques de la molécule de cadérine. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est de changer ces acides aminés plusieurs fois en testant à chaque fois en fait, les variations d'affinité qu'ils obtenaient. Et ils ont réussi en fait, à faire une internaline murine, INLA-M, qui avait cette fois-ci un KD, c'est-à-dire une constante d'affinité identique pour la cadérine murine à l'INLA sauvage pour la cadérine humaine. Et lorsque cette listeria avec cette internaline murinisée est mise chez une souris, maintenant la bactérie se développe et donc disons que c'est la preuve en miroir, l'ensemble du concept, si vous voulez, est validé. Donc c'est pour vous montrer que cette approche la compréhension du passage de barrières d'espèces, elle peut véritablement se mettre en équation moléculaire et on peut obtenir des résultats même si, disons, la contribution est quand même restreinte pour beaucoup à la notion de ce récepteur primaire. S'il faut plus que ce récepteur primaire modifié, il est clair qu'on rentre dans des situations beaucoup plus complexes. Et la situation beaucoup plus complexe, elle est éventuellement mentionnée dans cette diapositive. Certes, on peut travailler sur les récepteurs qui sous-tendent le passage d'étapes clés, de la barrière intestinale, vasculaire, hémato-encéphalique, mais on ne prend pas en compte nécessairement, comme je vous l'ai déjà dit, les facteurs qui sous-tendent la replication virale, sa multiplication in vivo, ils sont souvent mal maîtrisés, et bien entendu les facteurs de la transmission inter-individu qui, comme je vous l'ai dit, sont peu connus, mal modélisés ou éventuellement mal modélisables. Alors un exemple, je ne sais pas où ça en est à l'heure actuelle, mais je pense que ce n'est pas aller beaucoup plus loin à cause de ce type de difficulté, ça a été la tentative au milieu des années 90 d'humaniser la souris pour en faire un modèle d'infection par le VIH. Vous savez qu'en recherche biologique, tant qu'on n'a pas un modèle murin, on est un peu gêné parce que sinon on est obligé de travailler avec des modèles animaux qui sont quand même plus gros, plus complexes, le singe et autres. Et pour le VIH, ça a été et c'est encore le problème. Donc, sur la base des connaissances croissante dans la biologie du VIH, un certain nombre de chercheurs ont commencé à se dire, finalement, connaissant ou commençant à connaître les diverses étapes de l'infection par VIH, commençant à connaître les protéines qui sont impliquées dans ces différentes étapes, essayons d'adapter un modèle murin qui soit cohérent avec finalement les molécules humaines qui vont interagir avec ces différentes molécules du virus. Alors, ça va bien, comme d'habitude, pour les récepteurs primaires, pour l'entrée dans les cellules, qui, comme vous le savez, correspond à un phénomène de co-récepteur dans le virus VIH, la molécule CD4 à la surface du lymphocyte, et puis ces molécules CXCR4 ou CCR5 qui sont des cofacteurs dans l'adhésion. Donc ça n'a pas été trop difficile de faire une souris transgénique qui exprime ces molécules équivalentes de nature d'origine humaine. Et on a donc là des souris qui sont capables, dont les virus sont capables de rentrer dans les lymphocytes ou dans les monocytes en particulier. Mais pour autant, les souris ne font pas de déficit immunitaire, il n'y a pas de replication du virus. On a dit, ce n'est pas grave, on va passer à l'étape d'après. On connaissait dans la biologie du virus deux molécules, par exemple, TAT et REV. TAT, c'est une molécule qui est un activateur transcriptionnel. En fait, elle se lie au complexe de transcription du génome viral quand le RNA a été transformé par la reverse transcriptase, donc rétrotranscrit en DNA, s'intègre dans le génome viral et est transcrit. Et la molécule TAT vient s'associer à ce complexe transcriptionnel et permettre la liaison d'autres molécules, comme la cycline T1, par exemple, qui active la transcription du virus et fait que il va y avoir de plus en plus de messagers. Alors on a dit, c'est bien, on va prendre la cycline T1 humaine, on va la rajouter à la souris transgénique qui exprime déjà CD4, CXCR5 ou CCR5, et puis le virus va se repliquer, et puis ça va être formidable, on va avoir une souris qui va faire le sida, et la souris, c'est l'histoire du canard, hein, la souris était toujours vivante et elle n'avait toujours pas fait de sida. Alors, il y a REV, qui est une molécule qui interagit avec un certain nombre de molécules cellulaires pour permettre en fait, l'export du RNA hors du noyau dans le cytoplasme pour pouvoir permettre la traduction et l'assemblage des protéines virales. On a commencé à essayer, je ne sais même pas s'il y a une transgénique REV humaine qui a été faite, mais enfin, simplement pour vous dire que, au bout du compte, étape après étape, on s'est aperçu malheureusement qu'on n'arrivait pas à reconstruire une souris qui permettait de récapituler, comme on dit maintenant, l'ensemble des étapes de l'infection virale, y compris la création du déficit immunitaire par l'induction de la mort des lymphocytes, entre autres, parce que c'est trop compliqué, parce que on n'est plus, encore une fois, comme je le disais au début, en présence simplement du problème d'un ligand qui va s'associer avec un récepteur, ça c'est gérable, on est en présence de molécules comme TAT, par exemple, qui vont s'associer à X molécules, et peut-être il faut changer aussi certaines de ces autres molécules, de mettre la molécule humaine équivalente pour que l'ensemble du processus se développe correctement. REV, c'est la même chose que d'essayer de changer en fait, le set de protéines qui est nécessaire à l'export de l'ARN par le port nucléaire. Ça rentre dans des niveaux de complexité qui sont absolument phénoménaux. Donc, à l'heure actuelle, je crois que c'est des approches qui sont relativement mises un peu en sommeil, au profit d'approches qu'on pensait initialement être plus rapidement productif, qui consiste en faire des chimères immunologiques, c'est-à-dire de prendre des souris qui n'ont pas de système immunitaire, qu'on appelle des souris SCID, qui n'ont ni cellules B, ni cellules T, ni cellules natural killer, et les transplanter avec de la moelle humaine et leur faire exprimer en fait un système immunitaire humain. Et ça aussi, pour l'instant, c'est compliqué. Donc, cette approche par les souris amène un certain nombre de réponses, mais certainement ne les résout pas toutes. Ce n'est pas une raison pour baisser les bras, mais c'est compliqué. Alors, l'autre façon de comprendre ce passage de barrière d'espèce, c'est finalement de s'attaquer à l'histoire naturelle de ces événements de passage de barrière d'espèce. Et je vais essayer de terminer cette présentation en vous présentant ce que je comprends moi-même, en tout cas, d'une quantité énorme de travaux qui a été faite ces dernières années pour essayer d'analyser finalement la phylogénèse d'un virus au cours de son passage de la barrière d'espèce, Donc on va parler de deux virus principaux qui sont le virus du SRAS, du syndrome donc, qui s'était développé dans l'année 2002, et respiratoire aigu, sévère, et de la grippe, et en particulier toutes ces notions éventuellement de passage possible à une pandémie. Alors, ça, pour reprendre le terme de récapituler, ça vous redonne un petit peu effectivement ce que doit être la complexité de ce cahier des charges dont j'ai déjà parlé, d'un virus qui veut finalement s'attaquer à une, qui est amené à s'attaquer à une nouvelle espèce. Il faut qu'il soit capable de se lier à un récepteur, donc il faut qu'il y ait un saut quelque part de spécificité moléculaire, car les récepteurs, même si ce sont des orthologues, sont rarement identiques chez l'homme et chez un autre animal, en particulier, par exemple, chez des félidés pour ce qui va être le SRAS ou chez des volailles pour ce qui va être la grippe aviaire. Il y a la problématique de l'entrée dans les cellules avec toute la complexité des processus de fusion membranaire, de trafic intracellulaire, la replication du génome viral, l'expression des gènes, les réponses immunitaires antivirales, en particulier les interférons, les réponses qui assurent la restriction de certains virus, on n'aura pas le temps de rentrer là-dedans, on parlera sûrement, ou j'essaierai d'en parler dans une autre série de cours l'année prochaine, mais on se retrouve encore une fois avec une gamme, un spectre d'obstacles possibles au développement du virus dans ces cellules qui appartiennent à cette nouvelle espèce qui est l'espèce humaine, qui peuvent à chaque fois finalement représenter une espèce de barrière moléculaire qui va amener le processus infectieux à avorter. Donc c'est à travers cette grille de lecture en fait, qu'on peut commencer à regarder les choses. Moi, il y a toujours, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'il y a une très très belle, peut-être un des plus jolis travaux sur l'émergence virale qui a été fait il y a quelques années, qui a consisté en fait à voir, c'est dans le monde vétérinaire, hein, ce n'est pas le passage d'un animal à l'homme, ce n'est pas le passage d'un animal sauvage à l'homme, c'est le passage du chat au chien. C'est d'avoir pu montrer que le virus de la leucémie féline, en fait de la leucémie du chat, qui est un parvovirus, avait réussi, après un passage probablement de replication dans le thymus du chien, à devenir en fait un parvovirus qui donne une maladie essentiellement diarrhéique et ce qu'on appelle un wasting syndrome, c'est-à-dire en fait une dénutrition chez le chien. Donc on a eu, en l'espace de quelques années, un virus qui, étant un virus qui causait une leucémie chez le chat, est devenu un virus qui donnait la diarrhée chez le chien. Bon, je caricature un petit peu, mais on n'est pas loin de ça. Et le travail est très joli parce que je pense qu'il met déjà... La chance, c'est que finalement, ce modèle est relativement simple, mais encore fallait-il l'analyser. Beaucoup des virus, vous savez, interagissent avec la surface des cellules par des protéines de capside qui sont souvent des espèces de projections à l'extérieur de la capside virale et qui vont aller se lier à un récepteur. Et donc, ce qui a été montré, finalement, c'est que cette transition, en fait, correspondait à deux étapes principales. Il y a eu d'abord une étape qui a fait que cette protéine S, qui fait ses grands spicules à la surface de ce parvovirus qui donnait la leucémie féline, donc la leucémie au chat, le gène qui code pour cette protéine S a subi au moins deux mutations, une dans cet acide aminé ici, 93, qui a transformé une lysine en asparagine, et l'une dans cet acide aminé 323 qui a transformé un acide aspartique en asparagine. Et la combinaison de ces deux mutations a modifié cette protéine S de telle façon qu'elle est devenue en fait affine pour le récepteur à la transférine du chien, qui est une molécule qui est extrêmement représentée à la surface de l'épithélium intestinal du chien. Donc on a quitté brutalement le domaine de la leucémogénèse et de liaison aux lymphocytes et ainsi de suite, pour arriver à un virus qui était capable d'aller se fixer à un autre tissu dans une autre espèce animale. Mais ça ne suffisait pas parce que ça donnerait lieu à cette impasse virologique dont je vous ai parlé. D'autres mutations se sont installées à ce moment-là dans ce virus qui ont permis, en particulier cette mutation 305 qui donne une tyrosine ou en 87, toujours sur cette protéine S qui donne une alanine à la place d'une valine, ont permis en fait à ce virus de maintenant se multiplier très efficacement à partir de cette étape de liaison au récepteur à la transférine canine dans l'intestin, puis de diffuser dans l'animal et de causer probablement ce syndrome de dénutrition qui à terme, entraînait la mort de l'animal par ce parvovirus. Donc ça vous donne déjà une perspective sur ce qui se passe, c'est-à-dire cette espèce de permutation successive, ces virus vont se trouver confrontés éventuellement à des surfaces différentes, à des espèces différentes, et s'ils trouvent, du fait de ces modifications, un nouveau récepteur, ils vont s'accrocher, et puis jusqu'à ce qu'apparaissent de nouvelles mutations qui vont augmenter le fit, le système va éventuellement se développer. Donc, ce processus de saut d'espèce, il correspond vraiment largement à des phénomènes d'adaptation du virus, bien entendu, et finalement, la capacité et le degré de variation génétique sont sûrement des éléments très importants, car finalement, la plupart des virus transférés à un nouvel hôte, comme je vous l'ai dit, sont faiblement adaptés, se répliquent médiocrement et sont transmis très inefficacement ou pas du tout. Donc, on peut imaginer intuitivement que plus la capacité de variation d'un virus sera importante, plus le virus aura de chances de s'adapter à un nouvel hôte. Et donc, ça suggère que finalement, des changements d'espèce ou ces sauts d'espèce devaient être plus fréquents chez des virus qui évoluent plus rapidement. C'est un peu ce que disait Charles Darwin avant même de connaître les virus et la génétique. Donc, ça nous propose une hypothèse qui a l'air quand même largement d'être confirmée, qui est que les grands pourvoyeurs de cette émergence virale sont quand même d'abord et avant tout les virus à ARN. Et pourquoi les virus à ARN ? Car ils sont sujets à de nombreuses erreurs, dans la mesure où leur ARN polymérase est en général assez peu fidèle, qui n'ont pas de mécanisme de contrôle de qualité, de proofreading, leur taux de replication est rapide, et souvent les masses virales obtenues chez l'hôte infecté sont absolument monstrueuses. Donc on se retrouve souvent avec ces virus avec une notion de ce qu'on appelle maintenant les quasi-espèces. Il y a tellement de variabilité que très très rapidement ils se diversifient et créent quasiment de nouvelles espèces, qui joue, comme vous pouvez l'imaginer, de ce fait un rôle clé dans ces possibilités de sauter d'une espèce à l'autre, jusqu'à ce qu'il finalement, de temps en temps, il y ait une mutation de trop, et que le virus, que cette mutation devienne létale pour un hôte donné, et que le processus infectieux éventuellement aborte. Donc les modifications génomiques engendrées sont source de diversité pour des événements de recombinaison intra-espèces qui vont en fait aussi amplifier des séquences génomiques qui peuvent se transmettre d'un virus à l'autre et des réassemblages, des recombinaisons vont encore augmenter cette diversité. Alors, il y a des exceptions à la règle, je ne rentre pas dans les détails, il y a des virus à ADN qui éventuellement évoluent très rapidement, il y a des virus à ARN qui sont très spéciés, qui évoluent très lentement, il y a toujours des exceptions aux règles. Mais si on regarde un peu en arrière, la plupart des virus dont on a parlé au début, en termes d'émergence, sont quand même largement des virus à ARN. Alors, quelques mots pour terminer sur deux infections vedettes, enfin, une ex-vedette et peut-être une future vedette. L'ex-vedette, c'est le SARS ou le SRAS en français, syndrome respiratoire aigu sévère, et l'autre, bien entendu, ce sera la grippe et la grippe aviaire pour essayer de mettre un petit peu de sens moléculaire, disons, dans ces choses. Donc vous savez que le SRAS, c'est du passé, c'est une pathologie qui a émergé très brutalement en 2002 pour se terminer en fait à mi-2003, qui a donné lieu à de nombreux cas, en particulier en Asie, à peu près 3000 en Chine, quelques cas à Hong Kong, à Taïwan, en Corée. Cette émergence de SRAS en Asie a traumatisé un certain nombre de pays. J'étais plusieurs fois à Taïwan et en Corée, ça les a amenés à mettre en place des dispositifs de surveillance absolument phénoménaux. Mais c'est probablement une maladie qui a été contrainte, rapidement contrôlée, heureusement, en quelques semaines, disons quelques mois, pour deux raisons principales. La première, c'est, je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a mis en place aussi rapidement et aussi efficacement des mesures de prévention à la transmission interhumaine. La deuxième et que probablement, heureusement, le virus était relativement peu transmissible de homme à homme et n'avait sans doute pas la capacité qu'aurait éventuellement un virus grippal épidémique ou pandémique. Néanmoins, avec bien entendu quelques cas à la périphérie en Europe, en France en particulier, venant du Vietnam, au Canada, Toronto a été sous menace pendant plusieurs semaines. C'est devenu un peu la plaque tournante de la transmission éventuelle du SARS pour l'Amérique du Nord. On a vu cette épidémie, heureusement, s'éteindre assez rapidement. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est très vite, les scientifiques se sont emparés de ce virus, l'ont séquencé, l'ont rapporté, comparé à ce qui était connu de cette famille qui s'est avérée être un coronavirus, aux familles de coronavirus qui étaient déjà connues, le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3. Il y avait même déjà des coronavirus humains connus. Mais il s'est avéré que ce virus du SARS, en fait, par analyse phylogénique, était un petit peu différent et formait finalement, entre guillemets, une famille pour son propre compte. Il n'appartient à aucun de ces groupes antigéniques déjà connus. Donc la maladie, comme vous le voyez ici, est une maladie, quand elle se développait, absolument dramatique. La mortalité du SRAS a été d'environ de l'ordre de 50% pour chaque individu infecté, avec un syndrome de détresse respiratoire aiguë, avec des infiltrats massifs pulmonaires, et aussi en fait une durée d'évolution très prolongée sur plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, avec la mise en place de processus de fibrose interstitielle et donc une insuffisance respiratoire aiguë secondaire. Heureusement, assez inefficacement transmis, les cas principaux ont été en intrafamilial ou du personnel hospitalier, mais en tout cas une séroprévalence, quand ça a été étudié, relativement faible autour des cas index. Donc vraiment quelque chose, une situation relativement nouvelle. Et très rapidement, la science a progressé. Le virus, heureusement, il y avait quelques groupes qui travaillaient encore sur les coronavirus, en particulier sur le virus de l'hépatite de la souris, par exemple, aux États-Unis. On a pu identifier cette protéine S, qui est, une fois de plus, une protéine de capside qui forme cette espèce de spicule qui donne son nom à ce coronavirus, parce que ça en fait une espèce de couronne. La science a avancé très vite aussi pour reconnaître le récepteur à ce virus qui s'est avéré être le récepteur qui est le angiotensin converting enzyme 2. Et c'est très intéressant parce que la connaissance de ce récepteur a permis de mieux comprendre la physiopathologie dramatique de la maladie. C'est-à-dire, vous savez que l'angiotensin, qui est un élément qui est impliqué dans la régulation de la pression artérielle et de l'inflammation, se présente sous forme de pro-molécules qui sont dégradées progressivement, maturées par des enzymes qui sont exprimées à la surface des cellules. Pierre Corvol, ici, au collège, connaît ça très bien, c'est son domaine de recherche. Et donc, ce clivage se fait par l'enzyme de conversion de l'angiotensine 1, ici, puis l'angiotensine 2 clivée va se lier à un récepteur, et ainsi de suite, et on arrive à la forme définitive qui va se lier à cette molécule ACE2. Et en fait, cette molécule ACE2 est le récepteur pour la spicule, la protéine S du virus du SARS. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Un, parce qu'on trouve, bien entendu, le récepteur, mais deux, parce que lorsqu'on engage ce récepteur ACE2, qui est un récepteur qui régule négativement l'effet de l'angiotensine, on augmente de ce fait la fonction de l'angiotensine, sa fonction agoniste. Et sa fonction agoniste dans le poumon, c'est vraiment d'entraîner de l'inflammation et de la fuite en fait, de sérum dans les alvéoles pulmonaires. Donc la liaison du virus du SARS à cette molécule en fait, empêche cette rétro-contrôle négatif de l'inflammation pulmonaire et probablement rend compte de cette espèce de pneumopathie interstitielle et œdémateuse massive qui tue les patients. Alors, simplement pour résumer, je vous ai dit au départ que le coronavirus du SRAS, probablement son réservoir initial, c'était la chauve-souris. Ce qui s'est passé, c'est que ce virus s'est spécié initialement, et c'est probablement là qu'ont commencé les choses, dans ce petit félidé chinois qui est la civette palmée. Ça, c'est probablement arrivé aux alentours de l'année 2001, peut-être 2002, et donné lieu à un certain nombre de souches qui sont maintenant répertoriées, identifiées, séquencées, étudiées. Et ce virus s'est avéré en fait être un peu ambivalent puisqu'il était capable d'être virulent, probablement un peu chez la civette, mais très peu, mais surtout chez l'homme. Et puis au fur et à mesure que l'épidémie évoluait, on a vu des souches apparaître beaucoup mieux adaptées à l'homme, en particulier cette souche de TOR2 ici, qui a été trouvée au moment du pic de l'épidémie, et puis un peu plus tard cette souche GDO3 en 2003-2004. Donc manifestement une évolution progressive, avec à l'évidence dans cette protéine S l'apparition d'une séquence qui n'existe pas dans les virus, par exemple, de la chauve-souris, qui permet la liaison de ce virus à S2 chez les félidés ou chez l'homme. Et tous les travaux actuels, et je ne rentre pas dans les détails, ont permis vraiment d'identifier la base moléculaire de cette spécificité d'espèce par rapport au récepteur ACE2, par l'intermédiaire en fait de l'identification de mutations qui sont en fait peu à peu améliorées, ont peu à peu amélioré le fit du virus pour ce récepteur ACE2 chez l'homme. Et on voit en fait quand on modélise la structure de cette protéine S par rapport au récepteur que ces mutations que vous voyez ici en couleurs différentes en fait correspondent bien aux zones sensibles de liaison au récepteur ACE2 chez l'homme. Donc, manifestement, des étapes successives, à la fois un peu brutales d'introduction d'une nouvelle séquence, et puis ensuite des mutations ponctuelles qui permettent d'améliorer le fit et qui font que peu à peu, le virus va passer de la chauve-souris à la civette, de la civette à l'homme, s'adapter à l'homme, jusqu'à éventuellement la prochaine alerte qui, pour l'instant, heureusement, ne s'est pas confirmée. Alors, en quelques minutes, je voudrais terminer sur la grippe et puis je passerai bien entendu la parole à mon collègue Antoine Gessin. Vous commencez à être familier avec le schéma général des virus, hein, la capside, et puis très souvent à la périphérie de cette capside, des molécules qui en font partie, mais qui s'externalisent et qui donnent lieu à l'interaction du virus avec l'environnement extérieur. Alors, c'est le cas, par exemple, du virus de la grippe, dont on va parler maintenant, et pour conclure, qui est caractérisé en particulier dans ces trois types, mais on va parler essentiellement du type A, qui est vraiment significatif chez l'homme, le type B un petit peu, le type C pas du tout, qui est caractérisé par deux molécules principales, qui sont l'hémagglutinine, qu'on résume sous le nom de HA, qui est en fait une très grande molécule qui va se cliver en deux molécules pour permettre à la fois la liaison au récepteur du virus de la grippe à la surface de la cellule et ensuite à la fusion qui va permettre la fusion de membranes et l'internalisation du virus dans la cellule. Et puis une autre molécule qui est une enzyme qui s'appelle la neuraminidase qui va, en particulier quand le virus ressort de la cellule, cliver les acides sialiques pour permettre de le libérer de son support cellulaire. Alors, ce sont des virus qui sont intéressants parce que ce sont des virus à ARN, mais qui ont 8 brins, c'est-à-dire l'ARN est segmenté, ce qui, vous le pensez bien intuitivement, va permettre assez facilement des échanges de fragments d'un virus d'une espèce donnée à une autre espèce, et c'est effectivement ce qui se passe dans le cas du virus de la grippe. Alors, vous savez qu'en fait, il y a peu de sérotypes de ce type A qui sont retrouvés chez l'homme. Il y a l'hémagglutinine, le sérotype 1, 2, 3, et pour la neuraminidase, les sérotypes 1, 2, avec des combinaisons, ce qui fait un pool de virus qui est quand même relativement limité par rapport à la diversité qu'on peut observer dans le monde animal, en particulier dans le monde aviaire, qui est le grand réservoir des virus grippaux, puisqu'il y a 16 sous-types d'hémagglutinine et 9 sous-groupes de neuraminidase. Donc vous voyez qu'on a représenter chez nous uniquement un faible échantillonnage des possibilités de ces virus. Alors ce virus change tous les ans, vous le savez, c'est l'épidémie de grippe annuelle contre laquelle on incite tout le monde maintenant à se vacciner. C'est ce qu'on appelle le drift. En fait, il y a quelques mutations qui font que la spécificité antigénique de l'hémagglutinine et éventuellement de la neuraminidase se modifie. Et c'est pour ça qu'on est obligé de refaire le vaccin. Mais ce n'est pas, je dirais, quelque chose qui a un impact majeur dans la mesure où on n'observe pas le drame, je dirais, qui s'observe lorsqu'il y a véritablement un shift, c'est-à-dire non plus des petites modifications par des mutations ponctuelles, mais un réassortiment brutal entre deux souches virales qui va amener finalement un virus qui est totalement inconnu immunologiquement à la population et qui va se développer sous forme brutale et éventuellement pandémique. Alors cette écologie du shift, vous savez qu'elle est assez complexe, on commence à la comprendre. Ces virus, en fait, circulent essentiellement chez les oiseaux sauvages. Ils vont éventuellement être transmis à la poule. Et dans le porc, c'est pour ça que souvent ces événements arrivent en Asie, parce que c'est là que tous ces animaux se retrouvent ensemble, mélangés dans des élevages, va se faire, parce que le porc est très ouvert à toutes les espèces virales qui ne lui sont pas pathogènes, vont se faire ces réassortiments. Et c'est comme ça que vont sortir éventuellement chez l'homme ces nouvelles espèces qui ont subi des réassortiments, des shifts, qui vont amener sur la population humaine des souches avec lesquelles elle avait été très très peu en contact jusqu'à présent, voire parfois pas du tout, et donc sur une population complètement naïve, donner lieu à des pandémies. Alors c'est ce qu'on a vu successivement, par exemple, lors de la grippe espagnole en 1918, c'est l'apparition d'une souche H5N1, j'en redirai un mot, qui a été une souche pandémique dont j'essaierai de vous montrer un petit peu les raisons moléculaires de cette pandémie. Puis on a eu une deuxième pandémie en 1957, ce qu'on avait appelé la grippe asiatique, qui en fait a correspondu à un échange entre un virus H2N2 et un virus H1N1 qui a donné ce génome hybride pandémique dans la population humaine. Et puis à partir de ce pattern, on a vu en 68 la grippe de Hong Kong avec des recombinaisons entre un nouveau virus aviaire H3 et ce virus H2N2 et encore plus de modifications. C'est en fait par ces changements brutaux d'équipement génétique de ce génome fragmenté qu'apparaissent ces souches épidémiques jusqu'à pandémiques jusqu'à possiblement la prochaine. Alors, toutes les questions sur ces passages ou sur ces sauts d'espèces sont liées une fois de plus à des différences moléculaires. Et on commence à connaître très bien le fait que, par exemple, les maglutinines, a une spécificité aviaire pour les virus aviaires, par exemple les maglutinines H3, parce qu'elles reconnaissent en fait un motif à la surface des cellules de l'hôte qui est de l'acide sialique, mais avec une liaison particulière, qui est une liaison alpha-2-3. Par contre, les souches humaines, en fait, ont une spécificité se fait par l'intermédiaire d'acide sialique à la surface des cellules, qui présente une liaison 2-6. Donc vous voyez, ça ne tient pas à grand-chose, mais ça suffit néanmoins à expliquer pourquoi un même sérotype d'hémagglutinine peut toucher l'oiseau et pas l'homme, ou peut toucher l'homme et pas l'oiseau. Et on commence à avoir, par l'analyse structurale de cette hémagglutinine de la grippe, qui est un trimère qui forme une molécule extrêmement complexe, comme vous pouvez le voir, une vraie vision, je dirais stéréoscopique, du site de liaison entre l'hémagglutinine et ses récepteurs d'acide sialique, qui montre qu'il existe, par exemple, une plus grande ouverture de cette vallée dans l'hémagglutinine aviaire pour l'acide sialique 2-3 et un système plus restreint, plus compact, avec des acides aminés qui font une espèce de projection à l'intérieur de la poche, qui explique sans doute la spécificité de liaison par rapport à un acide sialique ou un autre. Donc toute cette molécularisation de la compréhension est en cours de réalisation et d'analyse, de déchiffrage. Donc ça, c'était ce contexte un peu classique qu'on connaissait, c'est-à-dire la spécificité d'espèces des virus, le drift et le shift par échange brutal de séquences complètes d'ARN. L'élément nouveau, récent, et c'est là que je terminerai, est la réalisation depuis quelques années qu'en fait, des souches qui sont strictement aviaires peuvent donner lieu, en tout cas pour des souches qui sont de haute pathogénicité, directement à une infection humaine. C'est-à-dire des souches qui se développent chez la volaille, chez la poule, le sérotype H7N7, H5N1, qu'on voit déjà à Hong Kong en 97, hein, ça a amené 18 cas humains, dont 6 décès, très peu, mais manifestement quelque chose était en train de se passer et montrait que le passage à l'homme était possible. Et cette épidémie n'a été résolue, vous vous en souvenez peut-être, par l'abattage massif de plusieurs millions de poulets à Hong Kong, ce qui sont des coups fatals pour l'économie locale, en tout cas pour les éleveurs. H9N2, H7N7, H7N2, tout ça sont des... De temps en temps, vous voyez, on a un passage. Et puis plus récemment, depuis 2004-2005, on a cette espèce de menace qui plane, c'est le cas de le dire, avec des oiseaux, grippe aviaire avec plus de 300 cas humains et éventuellement 200 décès. Pas quelque chose de très grand, mais néanmoins l'impression que quelque chose est en train de se passer par des souches qui sont transmises directement de la volaille, des oiseaux, du poulet à l'homme. Alors, ces cas humains sont des cas qui sont relativement rares, vous l'avez vu, mais lorsqu'ils existent, ils sont sévères, avec un peu comme dans le SRAS, ce syndrome de détresse respiratoire aiguë. En fait, la transmission, manifestement, n'est pas une transmission aérienne. Les cas humains qui ont été observés jusqu'à présent sont surtout des individus, des enfants, ayant été en contact très étroit avec des animaux moribonds et donc recevant probablement des doses très très importantes de virus, largement probablement par voie intestinale initialement, mais la physiopathologie de cette grippe aviaire est encore très très mal connue. L'impression, c'est que le virus a rempli une partie de ce cahier des charges dont je parlais jusqu'à présent, mais n'a heureusement pour l'instant pas en particulier la capacité d'infecter l'homme par la bonne voie, qui permettrait de donner une transmission respiratoire relativement efficace. Et c'est là, finalement, que s'arrête ce concept de passage d'espèces, puisque la transmission, manifestement, ne se fait pas, pour l'instant, d'homme à homme, avec quelques exceptions, encore une fois, ces petits clusters ou flambées familiales dont je vous ai parlé, mais qui restent relativement limités. Alors, pourquoi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il commence à être un petit peu tard, on commence à avoir une explication moléculaire à ces phénomènes, en particulier parce que pour que le virus soit transmissible d'un individu à un autre, en particulier bien sûr d'un homme à un autre, il faut qu'il se développe de façon très très importante dans les voies aériennes supérieures, de manière à ce qu'au moment de l'éternuement, par exemple, il puisse être transmis violemment dans l'environnement et acquis dans les voies aériennes supérieures par un autre individu. Or, les récepteurs qui sont caractéristiques de la souche aviaire, c'est-à-dire cet acide acétylneuraminique 2-3, est très peu représenté dans les voies aériennes supérieures de l'homme. Par contre, il est présent dans le poumon, au niveau des alvéoles et dans le tube digestif, ce qui explique peut-être cette phase digestive diarrhéique importante qu'on observe lorsque des gens se contaminent avec la souche aviaire. Donc on peut penser que, entre autres, c'est dans cet élément-là d'incapacité pour le virus de coloniser les voies aériennes supérieures de l'homme que se situe cet arrêt dans le cahier des charges qui fait que la souche, heureusement pour l'instant, si elle est pandémique dans la volaille, n'est pas devenue pandémique chez l'homme. On sait néanmoins, et on commence à comprendre et à connaître très très bien la biologie de ce virus, identifier un certain nombre de modifications dans l'hémagglutinine, dans l'acide neuramidique, dans la polymérase et dans un certain nombre d'autres molécules comme NS1 qui entraîne une diminution de la réponse immunitaire. On commence à expliquer la gravité de cette souche, en tout cas le péril aviaire qu'elle représente et le fait que si elle infectait l'homme, et quand elle le fait avec une telle violence. Donc c'est un peu la définition, si vous voulez, des bases moléculaires de cette haute pathogénicité de ces virus aviaires. Donc, le dernier mot que je voulais vous dire à propos de ça, c'est l'épidémie de grippe espagnole de H1N1 de 1918, qui, comme vous le savez, est le modèle de la pandémie, puisqu'elle a tué environ 20, peut-être un peu plus, millions de personnes dans cette période. Simplement pour vous dire que ce virus est vraiment devenu un peu le modèle de compréhension de pourquoi une souche peut devenir pandémique et donné un accident aussi grave. Alors vous allez me dire, comment peut-on avoir identifié ce virus alors que toute la population qui a été touchée est maintenant, pour l'essentiel, décédée, et ce virus n'est pas ressorti récemment, sauf peut-être en Russie il y a quelques années. En fait, dans les débuts des années 2000, des chercheurs ont réussi à exhumer dans l'Alaska des restes humains de personnes qui étaient mortes dans cet endroit qui s'appelle Breivik Mission, par exemple. C'était un village de, je pense, 500 habitants. Toute la population adulte est morte. D'ailleurs, il y a ces fameuses flu orphans, des photos, je ne sais pas si vous avez vu ces photos, où en fait, il n'y a que les gosses qui ont survécu. On ne sait d'ailleurs pas pourquoi les enfants entre 4 ans et 9, 10, 11 ans pas résistants, mais en tout cas sont moins sensibles à la létalité de ce virus. En tout cas, les enfants ont survécu, mais les adultes sont décédés. Et donc, en exhumant les restes des personnes décédées, des chercheurs ont pu cloner le virus et finalement restituer le virus de la grippe espagnole et commencer à l'étudier dans des modèles expérimentaux, en particulier chez la souris et le macaque. Et il est clair que ce virus a d'abord révélé que ce n'était pas probablement phylogénétiquement un virus humain, comme on a pu le croire, H1N1, hein, ça ressemble aux souches humaines qu'on voit habituellement, mais probablement un virus aviaire. Et deuxièmement, les bases moléculaires de la gravité de cette pathologie commencent à être identifiées. Les modifications dans la poche de l'hémagglutinine ont montré qu'il y avait un début d'humanisation par des mutations dans la capacité de cette hémagglutinine à se lier au récepteur humain, donc au variant 2,6 de l'acide sialique. Et puis il y a l'apparition de ces séquences basiques ici, qui, pour celle-là en particulier, augmente considérablement l'activité de la neuraminidase, qui permet au virus d'être libéré beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement lorsque les cellules sont infectées. Donc vous voyez que c'est une espèce d'archéovirologie qui s'est mise en place et qui permet de mieux comprendre pourquoi, arrivant sur une population complètement naïve, parce qu'on pense que dans les décades précédentes, cette épidémie, c'était surtout le sérotype H3 qui était prédominant. Donc ce sérotype H1N1 particulièrement virulent faisant irruption dans une population complètement naïve immunologiquement a fait des dégâts absolument phénoménaux. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour essayer de vous faire un peu percevoir les éléments moléculaires et cellulaires de cette problématique de passage de barrières d'espèces. Donc je vais m'arrêter là.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.